France Culture, il est 16h. Tout de suite, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission des enjeux globaux et planétaires de France Culture. Comme chaque mercredi, nous sommes ensemble et en direct de 16h à 17h. Et aujourd'hui, je vous invite à mettre nos pas dans ceux de jeunes chercheurs pour explorer les mille et une nouvelles façons dont nous, les êtres humains, faisons territoire. Le territoire, en effet, est un objet familier, bien sûr, de tout un chacun, et un mot populaire, vraiment partagé. Eh bien, figurez-vous que depuis 10 à 20 ans, de nouvelles générations de chercheurs étudient ce territoire, ils se l'approprient, le malaxent, le secouent, le reconfigurent. Tout cela pour expliquer et comprendre notre condition d'hommes et de femmes modernes, ici et maintenant. Les territoires sens dessus-dessous, c'est le sujet de Planète Terre cette semaine. Cette émission est l'une des nombreuses émissions de la programmation que France Culture consacre toute cette semaine à Demain les savoirs. Pour évoquer comment le territoire, pour sa part, devient un nouvel objet, comment il est le terrain de nouvelles méthodes, Planète Terre donne donc la parole à trois jeunes chercheurs, comme c'est le cas dans toutes les émissions cette semaine. Marianne Blidon, qui est maître de conférences à l'Université Paris 1 et qui est spécialiste du genre et des sexualités. Bonjour Marianne Blidon.
Bonjour Sylvain.
Sarah Mekdjian, qui est enseignante chercheuse au département de géographie sociale à l'université de Grenoble-Alpes, est spécialiste des questions migratoires et de la contre-cartographie. On se croirait presque dans Star Wars. Bonjour Sarah Mekdjian.
Bonjour.
Vous êtes, je le signale, en duplex depuis les studios de France Bleu Isère et je remercie les collègues de vous accueillir. Et puis enfin, Yann Calberac, vous êtes maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, université éponyme pour la nouvelle région, et vous travaillez notamment sur ce qu'on appelle le tournant spatial dans les sciences humaines et sociales. Bonjour Yann Calberac.
Bonjour Sylvain.
Alors, vous avez accepté tous les trois de nous expliquer ce rajeunissement de la notion de territoire en parlant de trois thèmes, ces trois thèmes qui correspondent à vos champs de recherche. Le tournant spatial, donc je l'indiquais à l'instant, dans les sciences humaines et sociales. La façon dont le genre et les sexualités font territoire. Et enfin, comment les questions migratoires produisent de l'espace nouveau et de la contre-cartographie. Et tout cela en lien, si vous le voulez bien, avec de nouvelles conceptions, de nouvelles définitions de l'espace, tels que vous avez pu les observer au Royaume-Uni, aux États-Unis d'Amérique, en Afrique ou ailleurs. Alors, pour commencer, j'ai constaté cette semaine une preuve des convergences et une coïncidence heureuse, puisque cette émission converge avec deux colloques passionnants. Un qui a déjà eu lieu, c'était la semaine dernière, jeudi dernier très précisément, les 20 ans de la revue électronique Cybergéo, ça a lieu au CNRS à Paris, et puis un autre qui va avoir lieu dans 15 jours, la manifestation Géopoint, qui se tiendra donc les 14 et 15 juin à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, la fameuse EPFL, auquel le journal Le Monde vient de consacrer un grand article très élogieux, et cette manifestation, je crois, est ouverte au public, et vous pouvez donc tous vous y inscrire, le lien figure sur le site de la page Planète Terre. Alors il se trouve, Marianne Blidon, que vous êtes intervenue dans le colloque 20 ans de Cybergéo et que vous interviendrez également, tout comme Yann Calberac d'ailleurs, dans la manifestation Géopoint. Alors, est-ce que j'ai raison d'y voir une convergence? Et si oui, de quoi cette convergence est-elle le nom, Marianne Blidon?
Je ne suis pas sûre que ce soit une convergence.
C'est une coïncidence heureuse alors?
Une coïncidence heureuse peut-être. En tout cas, il y a probablement un effet réseau qui fait que quand on est invité, c'est aussi en lien avec d'autres personnes avec lesquelles on a des liens. Donc je fais partie du comité de la revue Cybergéo, d'où cette invitation aux 20 ans. Et c'est Jacques Lévy qui m'a invité au Géopoint après avoir lu un article dans le numéro d'Ego Géographie où nous avions écrit respectivement.
Donc c'est juste une coïncidence de date, Yann Calberac, pour vous? Ou est-ce que ça dit quelque chose de, du territoire ou des territoires comme nouveaux objets et des nouvelles méthodes pour les aborder. Je vous pose d'autant plus la question que vous dirigez la revue Géographie et Culture.
Alors,
à laquelle...
Non, je ne la dirige plus.
Alors, vous ne la dirigez plus. Bon, vous l'avez dirigée quand même quelques temps, au moins au moment où le numéro et l'article auquel Marianne Blidon faisait allusion à l'instant est paru, en décembre dernier, si je ne m'abuse. Et puis, donc, vous serez l'un des intervenants à Lausanne pour mettre en perspective la nouvelle façon de penser les territoires, puisque vous les mettrez en perspective dans 40 ans de représentation de l'espace dans les sciences humaines et sociales. Alors, c'est vraiment uniquement une coïncidence, ou est-ce que ça dit quand même quelque chose sur comment aujourd'hui l'espace et les territoires, c'est peut-être deux choses différentes d'ailleurs, sont vus, renouvelés au sein des sciences humaines et sociales? Yann Kalberak.
Je vais vous faire une réponse d'historien de la géographie. En fait, ce qui est intéressant dans ces deux manifestations, c'est qu'elles célèbrent deux anniversaires. C'était les 20 ans de Cybergéo, qui était la première revue électronique de géographie un peu générale, généraliste sur Internet, et qui donc depuis 20 ans a contribué au renouvellement des savoirs. Et le Géopoint, cette année, marque aussi une étape importante, puisque c'est les 40 ans du Géopoint. On va célébrer les 40 ans de cet événement qui était fondé en 76, avec d'ailleurs un changement de formule, hein, puisque pour la première fois, il n'aura plus lieu à Avignon, qui était la maison mère un peu du groupe Dupont, mais à l'EPFL, comme vous l'avez dit. Donc en fait, la coïncidence est plutôt de remarquer que la question de la pertinence du territoire ou de l'espace, elle est toujours actuelle. Quand Cybergéo a été fondé, la géographie dans les années 90 était en plein renouvellement, notamment avec l'arrivée des traductions ou des travaux de géographie anglophone qui étaient repris par les chercheurs francophones. Donc ça marque cette temporalité-là, et il y a une quarantaine d'années, le groupe Dupont, qui est à l'origine du Géopoint, a renouvelé en profondeur la question de la géographie en posant la question de la théorie dans le débat. Donc c'est pas tellement une coïncidence, mais c'est pour dire que finalement cette question de la pertinence de l'espace ou du territoire, elle est toujours actuelle, elle ne cesse d'être pertinente.
Sarah Mekjian, je m'adresse à vous, et je le rappelle, vous êtes en duplex depuis France Bleu Isère à Grenoble. Je m'adresse, la question que je vais vous poser, je la pose à vous, parce que, sauf erreur de ma part, vous n'êtes sur le programme d'aucune de ces deux manifestations. Parce que la réponse de Yann Kalberak, moi, elle me satisfait qu'à moitié, parce que ça fait pas très nouveau, du coup, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah Mekjian, de dire, moi je croyais que c'était deux manifestations qui regardaient un peu de nouvelles manières de penser le territoire, et puis on me répond anniversaire. Sarah Mekjian.
La géographie, comme toute discipline instituée, a besoin de fêter des anniversaires pour à la fois remercier celles et ceux qui ont tracé des voies avant nous. Et même si nous essayons, Marianne Blidon, Yann Kalberak, moi-même et bien d'autres, d'essayer de renouveler nos méthodes et nos objets, il est indéniable que nous nous plaçons d'abord dans une forme de continuation de ce qui a déjà été ouvert. Et Cybergéo et Géopoint ont, comme l'a très bien rappelé Yann Kalberak, Kalberak, véritablement ouvert à la fois des manières de diffuser la recherche et de la produire. Et puis en même temps, je ne vais pas aller à ces deux événements, mais je vais les suivre de très près. C'est sûr que de nouveaux chercheurs et des chercheurs aussi plus institués vont se poser des questions sur nos manières de faire et les remettre en question. Mais pour remettre en question nos manières de faire, il faut aussi savoir reconnaître ce que nous avons en héritage, y compris pour le bousculer. Et il me semble que ces anniversaires sont des moments critiques où, par définition, le moment critique, c'est justement le moment où on remet en cause, mais aussi où on prend la mesure de ce qui a déjà été fait. Et donc, je suis persuadée que ces deux événements vont à la fois ouvrir des voies et les permettre de reconnaître celles déjà parcourues.
Et alors vous, Sarah Mekjian, dans votre domaine, qui est celui, si je ne m'abuse, des questions migratoires, comment est-ce que vous bousculez ce legs et cet héritage que, par ailleurs, je le comprends bien, il faut révérer?
Non pas révérer, mais en tout cas prendre conscience d'où on parle. Et moi, j'ai un parcours de géographe très classique. Je suis passée, par exemple, par un concours tel que l'agrégation, qui m'a formée dans un espèce de canon de la discipline et avec lequel je prends petit à petit petit à petit, mais distance, ça fait partie justement des nouvelles méthodes que de prendre en compte notre positionnalité, d'opérer un retour réflexif sur la manière dont nous avons été formés et les manières que nous voulons ouvrir pour le futur. Et pour être un peu plus précise, du côté de la question migratoire, je me suis attaquée en particulier à une méthode qui n'est pas uniquement celle de la géographie, mais de beaucoup d'autres sciences sociales, qui est la méthode du récit de vie ou du récit migratoire, qui consiste à élaborer un entretien avec des personnes qui ont été en situation de migration pour ensuite retranscrire un certain nombre de données qui me seraient données. Eh bien, moi, j'essaye de bouleverser cette méthode du récit de vie, qui vient aussi informer l'anthropologie, la sociologie, évidemment, mais aussi bouleverser la manière dont on cartographie ces données migratoires pour essayer de penser une discipline indisciplinée qui dialogue en dehors du monde académique avec les mouvements sociaux, les mouvements politiques et tout le monde aussi également associatif où se pense en acte une manière de créer un monde qui soit bien plus hospitalier que celui dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Alors on y reviendra. Marianne Blidon, est-ce que vous aussi vous avez le sentiment que tout en accueillant l'héritage qui vous est légué par vos glorieux ancêtres, ou en tout cas vos glorieux aînés, ça serait plus juste de le dire comme ça, vous bousculez un certain nombre de choses en vous intéressant à la question du genre et à la question des sexualités du point de vue territorial et spatial.
Alors, j'ai surtout l'impression que la reconnaissance de l'héritage, c'est pas ce qui est le plus commun aux personnes qui travaillent sur le genre et les sexualités. Il y a une injonction très forte de l'institution académique aujourd'hui à apparaître comme novateur, comme pionnier. Et donc, que ça soit dans les programmes de l'Agence nationale de la recherche ou dans un certain nombre de travaux, il y a un peu cette affirmation performative d'être le premier novateur, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait. Et il me semble que ça, c'est un élément qui fait de plus en plus pression sur les chercheurs, pas seulement en géographie. Et que on a un peu tendance tous à s'engouffrer dans cette voie-là, qui est d'essayer de s'affirmer comme novateur. Alors il y a peut-être des choses novatrices dans mon travail, mais en tout cas je trouve vraiment important de s'inscrire dans une filiation de recherche. Alors pour ce qui est de mon travail, peut-être que l'aspect le plus inédit, c'était de faire une enquête en ligne sur les trajectoires des gays et des lesbiennes dans un champ de recherche anglophone, en tout cas très marqué par Mapping Desire, qui était vraiment le manuel de référence.
Écrit par qui déjà ?
Jill Valentine et David Bell, qui justement...
Deux géographes américains, si je ne m'abuse.
Deux géographes britanniques.
Britanniques, pardon.
C'est pas grave. Qui s'étaient justement positionnés contre la cartographie et contre cette idée de mettre des points sur une carte. Et donc le fait de réintroduire du quantitatif, de réintroduire de la cartographie, c'était un espèce de sacrilège, puisque justement l'idée c'était d'être dans une approche et des méthodes très qualitatives.
Alors, donc vous aussi, et on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, vous indiquez que faire évoluer les pratiques et les représentations de la cartographie, c'est quelque chose qui fait partie, disons, de la manière dont la recherche sur l'espace et le territoire évolue. Sarah McJean l'a dit aussi, vous allez peut-être nous donner quelques exemples, mais avant cela, j'aimerais demander à Yann Kalberak s'il a le sentiment que bousculer la manière de faire des cartes ou de représenter le territoire, c'est quelque chose, pour le coup, qui est vraiment en rupture avec les tournants précédents.
La géographie, comme d'autres sciences sociales, ont connu beaucoup, beaucoup de tournants. Alors effectivement, aujourd'hui, on connaît un tournant cartographique qui conduit à repenser l'objet carte et à affirmer que la carte n'est plus comme ça pouvait être le cas de la carte topographique de jadis, comme le reflet, la représentation exacte du réel, mais au contraire, la carte, c'est le support d'une communication, d'une idéologie, d'un message. Et donc, la carte, c'est un outil qui permet à la fois de véhiculer des idées, mais également de co-construire des savoirs. Et donc, tous les travaux les plus récents aujourd'hui aujourd'hui sur les études cartographiques, et là je pense que Sarah McGee aura beaucoup plus d'éléments que moi à apporter, c'est justement que ça peut être un élément pour élaborer en commun un savoir entre le chercheur, mais aussi les personnes qui sont interrogées, qui sont l'objet de la recherche. Donc c'est une nouvelle manière peut-être de produire des savoirs, et c'est aussi une manière de restituer de manière innovante ces territoires qui, du fait de la mondialisation, de l'évolution des télécommunications, des déplacements, etc., changent. Aujourd'hui, le territoire, c'est un peu un truisme de le rappeler, mais le territoire d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le territoire de jadis. Le problème qui se pose, c'est de représenter des échelles différentes, des métriques différentes. Et donc, effectivement, il faut réfléchir à ces nouvelles formes de représenter les territoires, de représenter l'espace, de manière à pouvoir rendre compte au mieux possible des sociétés et de leur fonctionnement.
Alors Sarah McGeehan, puisque Yann Galbérac disait que vous auriez certainement des choses beaucoup plus précises à dire pour approfondir ce qu'il vient de dire lui ou le prolonger, pouvez-vous nous parler peut-être de je ne sais pas comment l'appeler, est-ce que c'est une expérience, est-ce que c'est une espèce d'écriture électronique, enfin en tous les cas ça s'appelle un anti-atlas des frontières, c'est sur internet, j'ai mis le lien, ou s'il n'y est pas déjà il y sera très vite, sur la page de Planète Terre, vous avez d'ailleurs une page Facebook qui correspond à cet anti-atlas des frontières, il y a un manifeste qui va avec, et puis il y a également des performances, des expositions, des œuvres d'art, et on a l'impression, comme ça, quand on est un peu néophyte et qu'on arrive là-dessus, sur ces pages-là, que finalement, les cartes, vos cartes, hein, celles de vous et du groupe auquel vous appartenez, ce sont autant des œuvres d'art que des cartes au sens classique du mot. On peut dire ça
Alors,
ou pas
on peut Absolument, et on peut rappeler, comme l'ont rappelé des historiens des sciences et aussi des sociologues des sciences, le plus connu étant Bruno Latour, que l'histoire de la carte est aussi autant une histoire des sciences qu'une histoire de l'art. Et la cartographie, comme pratique, s'est constituée autant depuis le champ scientifique que depuis le champ artistique, puis petit à petit, avec aussi la géographie qui se au XIXe siècle, qui s'est institué comme science et qui a voulu se séparer justement du monde de l'art en se constituant comme une science positiviste et autour d'un modèle d'objectivité, a fait de la carte un outil essentiellement scientifique, mais la carte a continué aussi à faire son chemin dans le champ de l'art, et l'art contemporain a même fait de la carte aujourd'hui un espèce de topos pour retravailler notamment la question que soulignait Yann Galbérac de la représentation. En tout cas, la carte a toujours été, depuis les premières cartes que nous connaissons, entre finalement ce qui tient d'une esthétique et ce qui tient d'une volonté de connaître le monde. C'est à la fois l'imager et le connaître. Et la cartographie, dans l'anti-atlas des frontières, donc je peux en dire un mot, qui est
Bien
un
sûr.
Collectif composé à la fois de chercheuses et de chercheurs, mais aussi, comme vous le disiez, d'artistes, mais aussi de militants, qui viennent du monde politique, l'anti-atlas se donne pour objet d'essayer de repenser les modalités de figuration et de représentation des frontières. La carte, telle que nous la connaissons, a aussi une histoire militaire, et la frontière, comme linéaire, comme ligne, est véritablement instaurée par la cartographie, et notamment militaire, associée à la consolidation des États-nations à l'époque moderne. Et l'idée de l'anti-atlas des frontières est de montrer qu'aujourd'hui, la gouvernementalité des frontières, leur modalité de virtualisation, etc., montrent que les frontières, évidemment, ne correspondent plus et n'ont peut-être jamais correspondu à un linéaire tel que notre imaginaire cartographique classique nous le laisse entendre, mais les frontières sont de plus en plus mobiles, et là, on peut citer l'ouvrage d'Anne-Laure Amilazari et Frédéric Giraud, en anglais, qui s'appelle Mobile Borders, donc sur l'idée de frontières mobiles qui sont de plus en plus virtualisées, qui posent des questions sur la nature du pouvoir aujourd'hui, qui justement est à la fois déterritorialisé et reterritorialisé.
Sarah McGeehan, excusez-moi, je vous interromps un instant et je rappelle que vous êtes
en
duplex de Grenoble. Pouvez-vous juste soit nous donner une définition un petit peu concrète, soit un exemple pour qu'on se figure bien justement le type de réalité qui sont désignées par ce nouveau concept de frontières mobiles. Parce que, comme vous l'avez indiqué, nous, on est tous avec nos représentations qu'on va appeler traditionnelles ou classiques de la frontière linéaire. Et vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'on voit les choses autrement. Mais il faut nous l'expliquer un tout petit peu plus, si vous le voulez bien.
Eh bien, simplement, il n'y a jamais eu autant de murs qui correspondent à l'imaginaire, mais aussi à une matérialité linéaire dans le monde. Les murs frontaliers se multiplient, mais également, les frontières n'ont jamais été autant mobiles et technologisées et virtualisées, notamment par la question des drones et d'une surveillance qui est de plus en plus mobile et qui suit, en fait, notamment dans la question migratoire, les corps individuels mobiles. Et on peut même dire, avec le système Eurodac, par exemple, dans l'Union européenne, que les empreintes digitales des individus aujourd'hui font frontière. Et c'est bien les empreintes digitales qui sont enregistrées dans ce système Eurodac qui permet de suivre le trajet des personnes qui disent si quelqu'un a le droit d'entrer, a le droit de séjourner ou au contraire doit être reconduit dans un autre espace de souveraineté. Et donc la frontière, c'est exactement ce que décrivait Michel Foucault, évidemment, dans sa philosophie du pouvoir. La frontière est matérielle, mais elle est aussi de plus en plus dématérialisée et elle est de plus en plus mobile. Et donc l'anti-atlas des frontières, pour finir, se donne pour objet d'essayer de représenter et de réinventer une carte qui corresponde à cette réalité transformée des frontières.
Alors, Marianne Blidon, par rapport à votre propre objet de recherche, est-ce que ce que vient de dire Sarah Mekjean éveille un écho, ou bien vous avez l'impression que vos objets à vous et votre manière, entre autres, d'étudier les trajectoires et les pratiques spatiales des gays et des lesbiennes, comme vous l'avez fait dans votre thèse, ou aujourd'hui la question du genre, c'est d'une toute autre façon que se pose la nouvelle façon d'aborder le territoire.
Alors, je m'intéresse pas centralement à la question de la production cartographique, mais d'autres l'ont fait. Je pense notamment aux travaux d'Élise Olmedo à partir des cartes sensibles, quand elle a essayé avec des femmes marocaines de produire des cartes en tissu qui rendent compte de leur expérience sensible. On est dans cette réflexion de la manière de traduire une expérience, un rapport au territoire, avec des formes d'écriture qui sont plus nécessairement celles de la carte classique. Donc essayer de trouver d'autres modalités pour rendre compte d'une expérience, d'un lien au territoire. Donc il y a le travail d'Élise Olmedo. Je pense aussi au travail de Claire Brisson sur l'expérience des hommes qui habitent dans les favelas et qui viennent fréquenter les plages de Rio, où elle aussi a dessiné, elle fait des dessins à la plage, ou dans un autre type de...
Vous voulez dire, elle demande à ces personnes qui viennent des favelas sur la plage de dessiner eux-mêmes leur trajet.
Non, c'est elle qui les dessine, en fait. C'est c'est ce que faisait aussi Élise Olmedo à Marrakech. C'est au lieu de prendre des photos, le fait de faire des croquis, c'est un rapport aux enquêtés et une place du chercheur dans son terrain qui est plus tout à fait la même. Donc c'est des réflexions qui ont lieu aujourd'hui sur à la fois la place du chercheur sur son terrain, mais aussi la manière de rendre compte d'une expérience singulière des personnes qui sont observées. Alors que ces personnes participent ou pas à la production cartographique et à la représentation géographique.
Et est-ce que vous diriez que ce qui m'apparaît comme étant une façon nouvelle ou peut-être pas inédite, mais enfin en tout cas à laquelle on n'est pas forcément habitué, la façon que peuvent avoir les chercheurs de sciences humaines et sociales de prendre le corps comme objet, y compris éventuellement comme dans une dimension topographique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît devoir être noté et mis en avant?
C'est peut-être un élément novateur. Vous cherchiez tout à l'heure des éléments novateurs. On aurait peut-être deux grandes tendances opposées. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir un recours au big data avec des travaux qui s'intéressent de plus en plus à des grosses bases de données. Je pense aux travaux d'Eric Fischer sur les données de Flickr ou de Twitter qui permettent d'avoir, pour le coup, des cartes extrêmement impressionnantes à différentes échelles, à l'échelle mondiale ou à l'échelle d'une ville.
Vous voulez dire qu'il cartographie, qu'il met sur une carte les différentes données donc géolocalisées,
voilà,
tirées de son étude des tweets envoyés.
Voilà, exactement.
et des photos postées sur Flickr.
Exactement, avec des requêtes qui peuvent être soit par mots-clés, soit par l'endroit d'où l'on a tweeté. Et donc ça donne pour le coup des représentations du territoire qui sont extrêmement frappantes.
Ça permet de voir par exemple quelles sont les zones touristiques des grandes villes qui ne sont pas forcément celles qu'on pense qu'elles sont.
Exactement.
Si on regarde d'où les gens envoient leurs tweets ou leurs photos en fonction de leur nationalité,
voilà,
par exemple.
Exactement. Donc il y a des applications en géographie du tourisme, mais aussi en géographie urbaine. Dans la même veine, je pense aux travaux de Marianne Guerrois et de Malika Madelin sur les données de Airbnb. Donc on est sur un travail avec des big data, des grosses données qui permettent de renouveler le regard qu'on peut avoir sur la ville. Et à l'inverse, dans une approche plus qualitative, on est sur des recherches qui sont très réflexives, qui pensent aussi la participation des personnes qui sont enquêtées et qui ont une approche à une échelle de plus en plus fine, qui va être celle du corps et qui prend à la fois en compte le corps du chercheur sur son terrain, mais aussi le corps des enquêtés.
Vous diriez, Yann Galberac, que ce que vient de dire à l'instant cette deuxième grande tendance présentée par Marianne Bidon, c'est un peu aux sciences humaines et sociales ce que l'autofiction est à la littérature. C'est un rapprochement qu'on peut faire.
Oui, même si du point de vue de la littérature, ce qui me paraît le plus frappant comme point de comparaison avec les sciences sociales, c'est le recours de plus en plus massif à la question de la non-fiction, justement. C'est comment des écrivains, je pense par exemple à Emmanuel Carrère, finalement fait de la littérature à partir à chaque fois de son expérience à lui, comment il se raconte dans ses romans pour faire de la littérature. Donc on retrouve un peu cette tension et ça pourrait faire un point de convergence entre les sciences et la littérature. Mais entre ce qui vient d'être dit par Marianne Bidon et un petit peu auparavant par Sarah McGeehan, en fait ce qui est en jeu dans tout cela, c'est la question de la positionnalité du chercheur.
Alors, positionnalité, c'est quoi la différence avec position?
La position, c'est placer un point sur une carte, savoir où on est. Bon, là on est dans la maison de la radio, dans tel studio, à tel endroit, donc ça c'est la position.
On est au 8e étage dans le studio de France Culture, entre les portes B et C, Yann Galberac.
Dans le studio 1. Donc ça serait la position. La positionnalité, c'est quand le chercheur, par un retour réflexif sur sa personne et sur ce qu'il est en train de faire, la recherche qu'il produit, permet de se comprendre comme situation de la recherche qu'il mène. C'est une manière de rompre avec ce qu'a rappelé Sarah McGeehan au début de cet entretien, qui était dans le sillage de la démarche positiviste de la géographie héritée de la fin du 19e siècle, de considérer que le chercheur était extérieur à la situation qu'il décrivait. Après tout, quand Vidal de la Blache allait en haut d'une montagne et décrivait le paysage, il était un peu extérieur. Aujourd'hui, le changement des objets, on a parlé de migrants, on a parlé de gays et lesbiennes. Donc effectivement, les interactions avec les personnes enquêtées ne sont pas les mêmes et ça oblige les chercheurs à se positionner par rapport aux personnes enquêtées, aux situations d'enquête. Et ça, c'est une mutation qu'on observe dans les sciences sociales depuis une vingtaine, trentaine d'années, donc pas seulement pour la géographie, mais pour toutes les sciences sociales, c'est ce retour réflexif.
Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça change concrètement?
Et ben, en fait, ça garantit la validité, pas la véracité, mais la validité des savoirs. Auparavant, fin 19e, début 20e siècle, pour qu'un savoir soit vrai, il fallait être parfaitement objectif. Plus on était extérieur, plus le sujet était extérieur à l'objet qu'il décrivait, plus c'était vrai. Depuis les années 70, 80, 90, en fonction des disciplines et en fonction des objets, la question c'est plus ça, c'est que justement, on ne peut plus être dupe de cette extériorité qui était fausse. C'est-à-dire que le chercheur, il est forcément au contact avec des jeux d'acteurs, des acteurs avec lesquels il interagit pour produire de la connaissance. Et donc, le premier travail à faire pour que les savoirs puissent être établis comme étant valides, non pas vrais, hein, la vérité est une forme de construction, mais valide, ça consiste à éclairer la positionnalité du chercheur par rapport au milieu dans lequel il enquête, par rapport à son objet. Et ce qui permet un retour réflexif sur lequel on a travaillé dans le numéro de Géographie et Culture intitulé Géographie, qu'on a dirigé avec Anne Volvet et qui est paru il y a quelques mois.
En décembre dernier. Oui, bien sûr, Sarah McGeehan.
Si je peux me permettre, pour ajouter à ce que vient de dire Yann Galberac, la réflexivité, c'est effectivement, et la positionnalité, c'est effectivement étudier les intérêts la position du ou de la chercheuse avec ce qu'il ou elle étudie, mais c'est aussi considérer le ou la chercheuse non pas simplement comme un individu, mais aussi comme un représentant d'une institution. Nous sommes tous les trois, Marianne Bidon, Yann Galberac et moi, fonctionnaires relevant d'institutions universitaires publiques et qui elles-mêmes ont des politiques de production du savoir. Et donc, nous ne parlons pas de nulle part. Nous parlons depuis nos institutions qui, évidemment, façonnent nos manières de concevoir le monde social. Et c'est aussi une manière de réfléchir à la géographie en tant que discipline, comment elle s'est constituée, les rapports politiques et de pouvoir qu'elle entretient avec d'autres disciplines et bien sûr avec le monde en dehors de l'académie, du monde académique. Donc c'est également des rapports interpersonnels entre le ou la chercheuse et ce qu'il ou elle étudie, mais aussi le ou la chercheuse comme révélateur des politiques institutionnelles et la manière dont nous produisons du savoir, et ça encore une référence évidemment à Michel Foucault, produit du pouvoir. Et donc, on ne peut pas faire semblant que ce que nous produisons n'a pas d'incidence sur à la fois nos institutions et le monde qui l'entoure.
Vous ne voulez pas être vecteur de quelque chose à votre corps défendant, si je comprends bien.
En tout cas, il est sûr qu'il faut au moins réfléchir à la manière dont ce que nous faisons, la manière dont ce que nous produisons comme savoir peut avoir des faits performatifs, à la manière dont nous avons évidemment, nous portons des impensés, des habitus de recherche dont il est indispensable de prendre conscience. Et là, on peut aussi faire référence à un autre penseur, évidemment, qui a dit ça bien mieux que moi, qui est Pierre Bourdieu, hein, la manière dont on doit se penser, évidemment, comme aussi étant des agents, des institutions qui nous financent. Hein. Et donc, il est indispensable de savoir d'où on parle. Et le « où on parle » est un « où » symbolique, mais c'est aussi un « où » géographique.
Bien sûr. Et des agents et aussi des acteurs, Marianne Bidon.
C'est pour ça que j'ai commencé par expliciter l'effet réseau à propos des anniversaires et que j'ai parlé ensuite de l'ANR. C'est qu'aujourd'hui, il semble indispensable de voir que les...
Alors, l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche.
L'Agence Nationale de la Recherche. C'est de voir que la production scientifique aujourd'hui, elle n'est pas indépendante des conditions matérielles de sa production. Il y a des politiques de la recherche qui impactent fortement la manière de faire de la recherche et le savoir produit. Donc on parlait de l'Agence Nationale de la Recherche, le fait qu'il y ait des programmes flash en lien avec des enjeux sociaux. Programme flash, c'est à la suite de l'été où on a vu qu'il y avait une crise migratoire massive, l'Agence Nationale de la Recherche a lancé un programme ouvert pour justement étudier la question migratoire. Donc il y avait l'idée de, en toute urgence, trouver une réponse à ces questions et à ces enjeux migratoires. Ça a été le cas aussi à la suite du 13 novembre, où le CNRS a lancé un appel à projet ouvert très largement autour de la déradicalisation. Donc là aussi, c'est peut-être un élément novateur, c'est de voir qu'il y a des politiques et des injonctions très fortes de la part d'un certain nombre de bailleurs et de politiques pour justement orienter la recherche vers des applications avec des temporalités qui sont plus tout à fait celles des chercheurs. Et ça impacte bien évidemment la manière de faire de la recherche, les thématiques, mais aussi le contenu de la recherche.
Alors, en écho, Marianne Bidon, à ce que vous venez d'évoquer, ces fameux programmes flash de l'Agence nationale de la recherche, proposés en tous les cas dans la foulée, si j'ose dire, de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la crise migratoire. Sarah Méjean, vous nous direz peut-être si ce nom vous paraît pertinent. Je vous propose d'écouter un court extrait d'un reportage qui a été diffusé sur France 24 le 3 mars 2016 et vous nous direz comment le chercheur peut se situer par rapport à ça et si ce qu'on entend nous permet de comprendre peut-être comment notre représentation du territoire est en train de changer.
Nous sommes à 1 kilomètre du camp d'Idoménie et depuis ce matin, nous voyons des centaines de migrants, des Syriens, des Irakiens marcher à travers ce camp, juste à côté de la route principale. Ils portent des sacs poubelles au-dessus de leur tête. Beaucoup de familles, des femmes, des enfants, des vieillards qui marchent ici depuis des heures. Certains depuis plus de 6 heures pour arriver jusqu'à ce camp. Ils disent qu'ils sont à bout de nerfs, qu'ils n'en peuvent plus. Certains n'ont pas mangé depuis plusieurs jours et ils n'en peuvent plus. Écoutez-les.
On a beaucoup souffert. On a traversé des mers, des rivières et on a marché pendant au moins 10 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, je ne sais pas. Apparemment, il y a des camps là-bas pour nous. Mais je ne sais pas ce qui nous attend. On va sûrement attendre à la frontière pendant 5 à 10 jours. Je ne sais pas.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Alors Sarah Mecgéan, qu'est-ce que le chercheur peut dire ou qu'est-ce que ça peut vous évoquer, ce type de reportage grand public sur une chaîne d'information continue, ou presque.
Voir la chercheuse. Eh bien, la chercheuse en question, mais d'autres, évidemment, j'entends l'urgence, j'entends, ce reportage est bien sûr significatif de beaucoup d'autres, où on sent d'abord l'émotion des journalistes, à la fois de celui qui traduit et de celle qui annonce le sujet, et qui effectivement relate d'expériences extrêmement limites, à la fois pour les corps qui les supportent et puis pour nous, les citoyens, qui entendons parler de ces personnes qui ont énormément marché et vouées à vivre dans des camps. Évidemment, je voudrais dire plusieurs choses. Premièrement, que ces situations d'urgence, et on entend beaucoup parler évidemment de ces situations d'urgence depuis la guerre en Syrie, mais qu'en fait, chaque guerre, chaque conflit produit de l'exil, produit des migrations. Et si la crise dont nous parlons depuis 2 ans, en gros depuis 2013, mobilise beaucoup les médias, le XXe siècle est une série de crises migratoires. Et donc, on peut s'interroger sur le caractère conjoncturel ou le caractère plutôt structurel de ce qui se passe. Et j'irais plutôt vers une question structurelle.
Oui, mais alors justement, puisque vous nous indiquez à juste titre que la crise actuelle, tout en étant spécifique, n'est pas inédite, en quoi la manière de l'appréhender aujourd'hui, pour quelqu'un comme vous et avec le collectif dont vous faites partie, le regarde différemment, avec un œil neuf, des méthodes qui sont peut-être différentes, et en tire des conclusions, y compris théoriques, différentes de celles et de ceux qui vous ont précédé.
Alors effectivement, pour venir à une expérience qu'on a menée à Grenoble, là on entend une journaliste qui relate, qui donne la parole à une personne rencontrée qui raconte le périple. Nous avons estimé à Grenoble avec d'autres géographes et des artistes que l'interview, l'entretien de face à face, était peut-être un mode rebattu et qui peut-être risquait en plus de reconduire une violence. Je m'explique. Les personnes qui sont en situation de demande d'asile ou tout simplement les personnes étrangères qui demandent le séjour dans les pays européens sont soumises à des injonctions narratives. Plus simplement, sont soumis à devoir raconter leur périple pour obtenir des droits. La condition pour obtenir le droit d'asile, mais aussi du droit de séjour, c'est de raconter par où on est passé et d'incarner la figure du réfugié, qui est une figure victimaire, pour raconter ce qui est arrivé et donc pour demander des droits.
On voit ça très bien dans le film d'Ipan, hein, le film qui avait eu la palme d'or du Festival de Cannes précédent, en 2015, hein, le nom du réalisateur.
De Jacques Audiard.
Merci beaucoup.
Absolument. Et donc ces injonctions narratives, en plus, doivent, et ça va rejoindre ce qu'on a dit sur l'évolution de notre conception de la science et de la production des savoirs, les administrations demandent des récits cohérents, vérifiables, vrais, en reproduisant finalement cette espèce d'horizon scientiste, positiviste d'une vérité. C'est ne pas évidemment se rendre compte que raconter un récit, c'est toujours avoir des omissions. Ça dialogue avec évidemment l'inconscient, le refoulé, ce qu'on oublie, ce qu'on décide d'oublier, etc. Et donc, à Grenoble, nous avons décidé de ne plus faire d'entretien, de ne plus mener de récit de vie, mais au lieu et surtout de suspendre la question du vrai et du faux. Et ça peut être étonnant de la part d'une chercheuse qui se revendique travailler depuis le champ de la science que de dire que je suspends la question du vrai et du faux, mais il s'agit bien plutôt d'ouvrir des espaces d'expression qui fassent discours, qui fassent revendication, mais où à aucun moment nous ne demandons aux personnes migrantes que nous rencontrons de nous raconter ce qui se serait vraiment passé. Parce que c'est reconduire une position surplombante d'une vérité écrasante.
Et du coup, vous faites quoi alors ?
Alors du coup, on ne se parle pas, mais on dessine. On dessine et on ouvre des potentiels figuratifs qui ne sont pas uniquement discursifs et verbales. Et nous dessinons des cartes qui autorisent tout simplement à raconter, sans raconter sur le mode verbal, des éléments, à être peut-être dans une forme de pudeur par rapport à des photographies qui peuvent être chocs et qui, si elles interpellent, peuvent aussi amener à détourner le regard. Et donc, nous avons produit le dispositif cartographie traverse, qui donne à lire, à voir, à voyager, dans des cartes à la fois pudiques, mais qui disent des éléments que seuls les participants ont choisi de partager sur un mode tout à fait différent du mode uniquement verbal.
Yann Calberac, est-ce que que vient de nous expliquer Sarah McDuan participe de ce que vous appelez, avec d'autres bien sûr, de ce qu'on appelle le tournant spatial dans les sciences humaines et sociales?
Alors oui, et oui, et bien au-delà. Moi ce qui m'intéresse surtout dans ce que vient de dire Sarah McDuan, et ce qu'elle a dit un petit peu en amont, c'est finalement l'intérêt renouvelé que les autres disciplines et plus largement les pouvoirs publics, les décideurs ont pour, non pas forcément la géographie, mais les savoirs spatiaux. Hein, tout ce qu'elle a expliqué sur les frontières mobiles, les besoins technologiques, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui peut être intéressant, et c'est justement une forme pour renouveler les savoirs, c'est de penser la circulation des savoirs entre la sphère académique et puis la société en général, pour justement comprendre, comme cela a été dit, que les savoirs produits par les géographes sont utilisés. Donc aujourd'hui, il y a une dimension éthique qui l'emporte, qui s'impose chez les géographes. C'est pas simplement de produire des savoirs, mais également de savoir ce qu'il sera fait de ces connaissances qui sont produites. Ça, c'est un premier point. Alors, le tournant spatial, il s'inscrit un peu dans ce cadre-là. C'est que, de plus en plus, la société et les autres sciences sociales, sciences humaines et sociales, s'intéressent à la question de l'espace. Alors, c'est pour ça que ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous avez dit en introduction sur le territoire. C'est pas tellement le territoire qui intéresse les autres disciplines, mais c'est plutôt l'espace.
C'est quoi la différence entre espace et territoire? Qui veut répondre en premier? Ah ben là, Marianne Bidon, en faisant des grands signes de la main, désigne Yann Calberac.
Alors, peut-être qu'on peut répondre à l'envers. On peut déjà essayer de voir ce que n'est pas l'espace. En fait, ce qui est intéressant, c'est que si on raisonne un petit peu sur le temps long de l'histoire des sciences, depuis l'époque des Lumières et tout le 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle, la catégorie privilégiée d'analyse, c'est le temps. C'est qu'on raisonne toujours avec une approche qui est celle du temps. Par exemple, la géographie du développement des 70, c'est vraiment de plaquer la frise chronologique et puis la marche vers le progrès. Le XXe siècle n'a pas été le siècle le plus marqué par le progrès qui soit. Quelques guerres mondiales, des génocides, des catastrophes. Et donc, s'est imposé dans les différentes sciences sociales un désintérêt relatif pour le temps, mais surtout une prise en charge de plus en plus forte de l'espace. Et aujourd'hui, le tournant spatial que l'on peut observer, c'est que toutes les disciplines, et pas simplement la géographie, s'intéressent à l'espace. Les historiens recourent de plus en plus à l'espace pour leurs travaux. Les sociologues aussi. Hein. Martine Allot a publié un ouvrage. L'ouvrage de Martine Allot, La sociologie de l'espace, a été traduit récemment en français. C'est une somme très intéressante. Donc finalement, la question aujourd'hui, c'est que toutes ces sciences sociales mobilisent l'espace.
Mais qu'est-ce qu'on trouve de plus dans l'espace? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on trouve? Pas forcément de plus, mais qu'est-ce qu'on trouve dans l'espace qu'on ne trouve pas dans le temps?
Et bien en fait c'est beaucoup plus en phase avec toutes les approches post-modernistes que l'on pourrait dire. C'est finalement la remise en cause de l'Occident qui a quand même fondé son hégémonie mondiale sur la question du progrès. Donc finalement réhabiliter la culture, les autres cultures, décentrer le monde, c'est justement ne plus imposer cette grille du développement fondée sur le temps, mais au contraire pouvoir poser la question de la juxtaposition de sociétés, de cultures, d'identités finalement sont juxtaposées les unes par rapport aux autres. Donc c'est vraiment une manière de remettre la question de l'espace dans les sociétés. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui toutes les disciplines des sciences sociales, enfin pas toutes, mais beaucoup, travaillent de plus en plus ou en partie sur l'espace, mais bien sûr pas comme les géographes. Donc tout l'intérêt, et c'est notamment une partie des travaux que je mène avec des collègues à Reims, c'est bien sûr de s'interroger sur la manière dont les autres disciplines définissent l'espace, ce que ces disciplines font avec l'espace, comment est-ce qu'elles produisent des savoirs, et pour nous géographes qui avions jusqu'à un passé proche le monopole de l'espace, qu'est-ce que ça fait que d'autres disciplines s'emparent de ce qui était jusqu'à présent notre monopole.
Bah, c'est plutôt bien, non, Marianne Bidon, parce que l'interdisciplinarité, c'est quand même très fécond.
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'interdisciplinarité, oui, mais pas au prix de l'effacement. Souvent, les géographes dans les hiérarchies disciplinaires ne sont pas toujours représentés, donc il n'y a pas toujours de réel dialogue.
Je comprends bien, mais dans le champ de recherche qui est le vôtre, à savoir les études de genre et sur la sexualité, j'imagine, d'abord vous n'êtes pas très très nombreux, quelle que soit votre discipline, à l'échelle du monde et encore moins en France. Donc c'est... Enfin, l'interdisciplinarité, on imagine que c'est même une des conditions de réussite d'épanouissement de votre objet de recherche et de vos propres recherches, non ?
Ça l'est d'une certaine manière, mais il n'y a pas toujours cette réelle volonté de dialogue. Alors, pour revenir sur la question des différences, je pense que les géographes prennent vraiment au sérieux l'espace. C'est-à-dire qu'ils essayent de voir dans quelle mesure l'espace participe de la production des rapports sociaux. Alors qu'à l'inverse...
L'espace est un acteur.
L'espace, en tout cas, est partie prenante de la production des rapports sociaux. Alors qu'à l'inverse, pour avoir travaillé avec des sociologues et des anthropologues sur ces questions-là, bien souvent, l'espace n'est qu'un contenant. Un contenant neutre. Donc, il n'y a pas forcément une prise en compte réellement contextuelle de ce qu'est l'espace. Je vous donne juste un exemple, c'est la ville. Quand, dans les travaux, par exemple, de Didier Ribon, il y a cette idée que parce qu'on est gay, pour pouvoir vivre sa sexualité librement, il faut aller vers la grande ville, qui garantit cet anonymat par des propriétés qui seraient le propre de la grande ville, à savoir l'anonymat. L'anonymat et la possibilité de faire des rencontres. Or, derrière cette idée de grande ville, on a très peu, justement, d'analyse contextuelle de qu'est-ce que c'est la grande ville. Et par exemple, Paris, c'est pas tout à fait la même chose d'habiter dans le 20e arrondissement ou dans le Marais. Et puis, Paris, c'est pas seulement Paris intramuros, c'est aussi le Grand Paris.
Donc, à ce propos, Marianne Bidon, vous accepteriez, avec nos auditeurs, d'écouter un court extrait d'un reportage que la RTBF, la radio-télévision belge francophone, a diffusé en novembre 2012, parce que j'ai l'impression que ça parle très très bien aussi en écho à ce que vous venez de nous expliquer.
Quartier du Midi à Bruxelles. La caméra cachée suit deux jeunes homosexuels qui se promènent simplement main dans la main ou dans les bras l'un de l'autre. Au départ, pas d'insultes, mais énormément de regards réprobateurs. Puis très rapidement, les premières moqueries, menaces ou insultes fusent.
Enlève la main ici, enlève la main.
Pourquoi ?
Il y a des enfants, non, regarde comment tu fais, il y a des enfants. Mais quel amour, mais quel amour. Dis-moi, c'est qui qui donne le premier ?
On le voit, certains défendent les deux gays. Ces derniers s'orientent vers le centre-ville, capitale de l'Europe, où visiblement l'homosexualité dérange aussi toujours. L'homophobie est donc bien vivante à Bruxelles, y compris chez les enfants, qui, la partie moquerie passée, passe aux menaces et aux raquettes. Le jeune couple s'éloigne du petit groupe, mais celui-ci ne lâche pas prise et le suit jusqu'à un parc. Les menaces se font plus sérieuses. Un départ qui se fera de façon précipitée, poursuivi par le groupe d'enfants, toujours plus menaçant. Mais heureusement, tous les jeunes rencontrés n'ont pas l'esprit aussi étroit.
Alors Marianne Bidon, ce qu'on vient d'entendre, ça se passe à Bruxelles, une très grande ville, peut-être du type de celle que vous évoquiez à l'instant. Question spatiale ou question sociale ?
Question complexe. Je vais donner plusieurs éléments de réponse. Alors déjà, moi, j'ai travaillé dans ma thèse sur cette question, j'avais appelé ça la casuistique du baiser. C'est-à-dire voir comment les couples gays se tenaient par la main ou s'embrassaient publiquement selon les lieux. Et on s'apercevait qu'il y avait en fait une géographie et un rapport à l'espace qui relevait d'une géographie vernaculaire, au sens où l'a défini Béatrice Collignon, c'est-à-dire que chacun avait une connaissance très fine de l'espace, de la topographie et des temporalités qui rendait possible le fait de se tenir par la main ou pas. Et que chacun utilisait un peu ses possibilités différemment. Par exemple, le fait d'être dans le bus, dans un bus bondé, ça permettait de pouvoir se toucher par la main discrètement. Le fait d'être, à l'inverse, dans une ruelle vide, ça permettait de se tenir par la main. Le Marais apparaissait comme un quartier où c'était possible.
À Paris, donc, dans le 4e et le 3e arrondissement.
Donc, une géographie très fine qu'il fallait observer à différentes échelles et différentes temporalités pour voir ce que les individus s'autorisaient ou pas selon les espaces.
Et là, Marianne Bidon, en quoi ce que vous venez de nous expliquer illustre concrètement ce que vous nous disiez juste avant le reportage, à savoir que l'espace est à la fois un produit, un agent, un acteur, produit du social et n'est pas seulement un contenant?
Alors, c'est pas le meilleur exemple pour illustrer ça. Mais par contre, ce qui est important, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur une approche plus sociologique, c'est que dans les analyses qui ont pu être faites par les sociologues, il n'y a pas forcément d'analyse contextuelle fine des différents espaces. C'est-à-dire le fait de prendre au sérieux la question de l'espace, elle n'est pas forcément prise en charge. Il y a deux autres choses sur lesquelles je voulais réagir à propos de cet extrait. C'est que on voit apparaître l'argument des enfants. Et l'argument des enfants, il est intéressant parce qu'il y a cette idée de la conversion homosexuelle et de la contagion homosexuelle. Comme si le fait que des enfants voient un couple d'hommes ou un couple de femmes se tenir par la main ou s'embrasser publiquement pourrait être une source de conversion homosexuelle. Donc ça, c'est un élément très problématique qui a été beaucoup instrumentalisé par la manif pour tous. C'est pas si simple. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que il y a eu des reportages qui ont été faits de la même manière à propos des femmes en jupe qui se promenaient dans l'espace public à Bruxelles. Et dans les deux cas, c'est les quartiers populaires et les couches d'hommes populaires qui ont été ciblées. Or, justement, ce que la Manif pour tous nous a montré, c'est que les manifestations de l'homophobie, elles ne sont pas le propre ni d'un espace qui serait la banlieue ou le monde rural, ni le propre d'une classe sociale qui serait les milieux populaires et les hommes issus de l'immigration, mais bien davantage une disposition qu'on trouverait dans toutes les couches de la société, de nos hommes politiques, et les récentes affaires autour des questions de sexisme et de harcèlement sexuel le montrent bien. C'est-à-dire que les modalités et les manifestations de l'homophobie ou du sexisme ne seront pas tout à fait les mêmes parmi les élites ou parmi les classes populaires. C'est-à-dire que la propension à siffler ou sera pas forcément la même, quoique l'actualité nous a montré que c'était pas si évident que ça. Donc on a une tendance à stigmatiser des espaces, dans le cas de l'homophobie et du sexisme, la banlieue particulièrement, mais pour autant, d'autres classes sociales et d'autres espaces ne sont pas les derniers, ne sont pas en reste en matière de sexisme et d'homophobie.
Et le reportage d'ailleurs se terminait dans l'hypercentre de la ville de Bruxelles et d'un de ses centres commerciaux. Yann Calberac, vous vouliez réagir ou ajouter quelque chose sur la question de la pluridisciplinarité.
Oui, la pluridisciplinarité, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité, on s'y perd un petit peu. Alors effectivement, comme l'a rappelé Marianne Blidon, aujourd'hui la pluridisciplinarité, c'est un critère d'excellence scientifique, enfin c'est imposé comme un critère. Une bonne recherche doit être forcément inter, pluri, multidisciplinaire. En fait, ce qui m'intéresse et pourquoi cette catégorie me pose problème, c'est que ça correspond à ce que les psychologues appellent une double contrainte, un double bind. C'est-à-dire qu'on dit à la fois quelque chose et son contraire. L'interdisciplinarité, c'est une manière d'aller à l'encontre des disciplines, mais en même temps, on réaffirme l'importance des disciplines dans un système universitaire français qui est quand même très très structuré par les disciplines. Qu'on pense au poids des sections du Conseil National des Universités, qu'on pense au poids des sections du CNRS, de l'importance des concours.
Qui sont des particularités françaises, je ne m'abuse.
Qui sont des particularités françaises. Par exemple, si on prend les universités dans les pays anglophones, les départements sont principalement organisés soit en aire régionale, soit alors sur des objets, les Feminist Studies, les Humanities Studies, voilà, et qui regroupe des chercheurs de disciplines, enfin d'horizons différents. Et donc, ce qui me pose problème dans le terme de pluridisciplinarité, c'est que on réaffirme à la fois la nécessité d'abattre les disciplines, tout en réaffirmant l'importance de ces disciplines dans un contexte très marqué par ces disciplines. D'où l'intérêt du temps spatial. L'intérêt, c'est pas de savoir comment chaque discipline envisage l'espace, mais quel espace, comment est-ce qu'on peut définir l'espace et comment ces différentes approches, ces différentes méthodes mobilisés diversement par des chercheurs qui viennent avec leurs problématiques, leurs questionnements variés, peuvent échanger. Et c'est peut-être par ces objets que l'on peut repenser le dialogue des disciplines. D'où l'intérêt d'une thématique comme l'espace qui peut fédérer un grand nombre de d'interrogations parmi les sciences sociales aujourd'hui.
Sarah McGeon, qui est à Grenoble, votre sentiment sur ce que vient d'expliquer Yann Calberac?
Mais absolument, je suis vraiment d'accord avec ce que vient de dire Yann Calberac et je voudrais juste ajouter qu'au-delà des questions d'interdisciplinarité, etc., il y a aussi toute une question qui n'est pas du tout prise en charge, qui est la question de ce que l'université fait au reste du monde social. Et donc, plutôt que de regarder toujours des manières de, à la fois, se mettre en lien avec d'autres disciplines, qui est aussi, comme vient de le dire Yann Calberac, un prétexte pour consolider ce qui est déjà en place, même si, par certains aspects, On essaye aussi de remettre un peu en cause les frontières disciplinaires. Il y a aussi toute une réflexion sur la manière dont l'université, les disciplines et les sciences peuvent et doivent se mettre en dialogue avec plein d'autres initiatives où la pensée se construit. Et la pensée ne se construit pas que dans les mondes savants. La pensée se construit aussi, y compris des aspects très théoriques, dans d'autres institutions, dans d'autres cercles, dans d'autres formes d'action y compris. Alors je pense, là j'avais fait référence à mes travaux et aux travaux d'autres collègues, évidemment nombreux, en lien avec l'art, avec le champ artistique, les écoles d'art, les artistes, les praticiens et les praticiennes. Mais on peut aussi penser à ce que nous faisons aussi à Grenoble, je pars de mon exemple, mais qui est évidemment en lien avec bien d'autres, de ce que fait l'université avec le monde associatif, le monde militant. Et je pense notamment à l'initiative des Sciences Debout, à Nuit Debout, où des chercheurs se mettent en lien avec d'autres et notamment des collectifs militants, pour que les savoirs circulent et que surtout nous prenons conscience, évidemment, que les savoirs ne se produisent pas que depuis l'université.
Alors écoutez, Sarah Méjean, je me doute bien que vous ne l'avez pas fait exprès, mais involontairement sans doute, vous me tendez une perche, parce que vous savez ou vous ne savez pas, mais j'en profite avec d'autres, nombreux sont mes collègues et mes confrères évidemment à en parler cette semaine sur l'antenne de France Culture, pour dire que ce week-end, ce samedi 4 et ce dimanche 5 juin 2016, France Culture et le Centre Pompidou, hein, qu'on appelle couramment Beaubourg, font quelque chose qui va totalement dans le sens de ce que vous dites, hein, c'est-à-dire qu'il y aura des intellectuels, des scientifiques, des chercheurs et beaucoup d'artistes, et également des écrivains, des philosophes, dans une grande opération qu'on a intitulée « Imagine, le week-end de la création et des idées ». Voilà, donc nous aussi, on essaye de participer à ce mouvement que vous venez de décrire, et puis je pourrais aussi citer à nouveau donc ce colloque Géopoint qui aura lieu à Lausanne, parce que je crois, Yann Kalbarak, qu'il y a une dimension artistique, voire une dimension de performance, comme on dit, sur laquelle vous voulez peut-être nous dire quelques mots. Et puis, demain, hein, à Bordeaux, il y a une grande exposition qui s'appelle Constellation, qui ouvre. Et j'en profite pour la mentionner, puisqu'il se trouve que le commissaire de cette exposition est un de vos collègues, puisqu'il s'agit de Michel Lussault, qui est, je crois, quelqu'un qui pense avec vous, Yann Kalbarak, le tournant spatial. Voilà.
Oui, pleinement. Alors, pour venir au Géopoint, effectivement, dans l'appel à proposition qui a été diffusé à toute la communauté des géographes et au-delà parmi les chercheurs en sciences sociales, le comité d'organisation et le comité scientifique ont mis en œuvre des propositions verbales, c'est-à-dire traditionnelles sous la forme d'un colloque, mais également des propositions non verbales, donc les posters scientifiques, mais également des œuvres d'art. Et nous avons donc des propositions artistiques, des films, des essais de sites web qui relèvent vraiment de l'art, qui seront proposés. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sur le même plan que les propositions scientifiques, avec toutes les guillemets qui s'imposent à scientifiques, hein, effectivement, comme l'a bien rappelé Sarah McGian, c'est ce partage entre l'université et le reste doit être complètement pensé, repensé.
Maintenant, je crois qu'on arrive au bout de l'émission. Planète Terre, c'est fini pour aujourd'hui. Il faut bien qu'on s'arrête, hein. C'était les territoires sans dessus, dessous. Alors, Marianne Bidon, Sarah McGian, Yann Kalbarak, je vous remercie beaucoup pour vos précieux éclairages. Donc, je précise que pour prolonger cette émission et vos propos et le dialogue avec vous, les liens vers vos publications, vers vos blogs, vers vos sites comme celui de l'Anti-Atlas des Frontières sont soit déjà en ligne sur le site de franceculture.fr à la page de Planète Terre, soit le seront au plus tard demain matin. La programmation Demain, les savoirs se prolonge donc tout jeudi et vendredi sur l'antenne de France Culture et sur franceculture.fr, notamment dans les émissions de sciences à 16h avec la marche des sciences d'Aurélie Luneau demain et sciences publiques de Michel Alberganti après-demain. Je rappelle donc à nouveau, je viens de l'évoquer, hein, que France Culture et le Centre Pompidou seront heureux de vous accueillir à l'opération Imagine, hein, le week-end de la création et des idées, c'est samedi qui vient et également dimanche. Luc-Jean Reynaud, Élise Le, France Bleu Isère, Catherine Madure et la documentation sonore de Radio France nous ont accompagnés en régie et dans la préparation de cette émission. Émission que vous pouvez écouter à nouveau en ligne et cela sans limite et que vous pouvez podcaster durant une année. Bien entendu, vous pouvez également la partager, si vous le souhaitez, à partir du compte Facebook de Planète Terre, de mon compte sur Facebook et de mon compte Twitter. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre fidélité.